pire, pour qu'ils viennent avec eux. Ce soir, comme à chaque fois, Sibyl et Samuel accepteront de partager de nombreuses tasses de koumis. Dans un russe qu'on arrive à partager lui aussi, tant bien que mal, un russe défiguré, tâtonnant, fragmenté en mille morceaux qu'on rafistole sans plus se soucier de parler correctement, mais seulement de se faire comprendre, on se parle. Sibyl demande s'il serait possible de laisser nos chevaux brouter cette herbe qui a l'air de tant leur convenir, si l'on pourrait installer nos tentes le temps de la nuit. Il y a toujours un homme pour expliquer qu'on doit aider celui qui passe devant la porte de notre maison. Si les portes des yourtes ne se ferment pas, c'est uniquement pour respecter cette règle. Ils savent à peu près comment les choses devraient se passer. Ils vont s'arrêter et libérer les chevaux de leur charge. Les poseront à l'entrée de la yourte. Ils feront attention, surtout en franchissant le seuil, de ne pas heurter la barre en bois. Attention de ne pas donner l'impression de décrotter ses chaussures, de la boue qui y colle. De ne pas s'aventurer sans respect pour ceux qui leur font l'honneur de les inviter. Car ici, tout est organisé. Le cérémonial va se dérouler comme il se doit. Ils devront s'asseoir à la place d'honneur, et ils commenceront à raconter d'où ils viennent. Sibyl sait qu'il lui faut aussi expliquer pourquoi une femme voyage seule avec son fils, car même si on ne le lui demande pas, depuis le début elle a toujours l'impression que c'est à travers le filtre de cette question, que personne n'ose lui poser, qu'on la regarde. Et puis il leur faudra expliquer où ils veulent continuer, pourquoi continuer. Et puis tous ensemble, on boira des tasses et des tasses de koumis, on boira tout ce qu'il faudra boire aussi de vodka et de bière, et on écoutera, on relancera à l'occasion, on demandera des éclaircissements. Mais il faudra écouter les histoires, les bonnes et les mauvaises nouvelles, et les odeurs de koumis se mêleront aux odeurs de lait, de terre humide, de mouton, de ragoût, de fromage. Et l'on verra les outres se dégonfler, et le koumis finir inexorablement dans les tasses, et les tasses se vider. Ils apprendront à connaître les histoires de Toctogul et de sa femme Kalima, qui raconteront les préparatifs du mariage de leur fille aînée. Et Manas, Orosmat, chacun racontera dans un ordre précis. Maintenant ils savent comment il faudra s'asseoir. Ils comprendront que le vieux Toctogul est le maître ici, car il s'assiera au nord, avec les coffres et les objets les plus précieux de la famille. Les invités seront à l'ouest, face à la porte qui se trouve toujours au sud. Là où les femmes préparent le repas. Ce rituel, ils l'ont vu se répéter à chaque fois. Chacun se déplace dans un ordre précis, homme, femme, enfant. La vie dans la yourte s'organise dans une hiérarchie immuable. Sous l'œil du Tunduk, le point cardinal de la yourte qui veillera sur chacun et à la tranquillité de tous. S'arrangeant avec l'univers pour s'y lover dans le cercle parfait d'une habitation qui refuse les angles. Où tout est fait pour accueillir en son sein les voyageurs et les habitants. Toujours la même odeur de cuir de mouton, parce que c'est avec ça qu'on fixe les lattes qui servent d'ossature à l'ensemble. Et puis les pièces de feutre attachées à des rubans de tissu, la porte en bois, les tapis de feutre aux couleurs orange, rouge, jaune, les motifs entrelacés, les coffres au fond de la yourte et la table basse, l'outre à koumis installée à droite dans l'entrée, toujours à portée de main d'une femme. Toujours le rituel et ce à quoi il oblige. Goûter ce qu'on nous propose, tout saisir de la main droite et remercier Dieu en joignant les mains, paumes ouvertes vers le ciel. Puis, en les passant devant le visage, porter un toast à la santé des autres et à leur famille, à leurs enfants, leur souhaiter le succès et montrer quelques photos de l'appartement bordelais, le salon, la cuisine. Les Kirghis s'intéressent vraiment aux autres. Toctogul est étonnamment grand. Et son teint de peau est clair, ses yeux bleus. Il est très bavard, Toctogul. On décide rapidement que nos invités dîneront, boiront, dormiront, avant de reprendre leur route. Et Darika et Kanim, les deux sœurs cadettes de la future mariée qui n'est pas là, veulent absolument faire des cadeaux à Sibyl. Leur mère parle de ce beau jeune homme qui ne dit pas un mot. « Oui, mon fils, » répète Sibyl. Et Sibyl regarde son fils. C'est vrai qu'il est beau. Elle est fière de lui quand les hommes d'ici le regardent avec respect, parce qu'il est très grand pour son âge, qu'il a l'air très vif et agile. Il pense qu'il doit être très bon sur un cheval. Et Toctogul demande à Samuel s'il a déjà participé à un tournoi de Ulak Tartish, ce jeu où les jeunes s'affrontent autour d'un mouton décapité. Non, bien sûr, il n'a jamais fait ça. Sibyl traduit la question à Samuel. Elle a le temps de percevoir comment soudain il est mal à l'aise. Comment il sourit pour cacher sa peur. Et elle retrouve cet animal sauvage et tout.